Vendredi 8 septembre 2023, bienvenue au journal en français du studio Kalangou, au micro Rafika Taher. À la une dans cette édition, les États-Unis décident de repositionner leurs militaires du Niger. C'est la conséquence du coup d'État du 26 juillet et les manifestations devant la base aérienne de Niamey. Ce 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Cette année, elle a pour thème « Promouvoir l'alphabétisation pour un monde de transition, bâtir les fondements des sociétés durables et pacifiques ». Et la partie magazine de ce soir va porter sur la confection d'istifar à Agadez, un objet de décoration de la région. Bonsoir. Les États-Unis ont décidé de repositionner leurs troupes au Niger en raison des récents événements politiques dans le pays. Suite au coup d'État survenu le 26 juillet, le Pentagone a annoncé hier qu'il prenait des mesures par précaution. Le département de la défense américaine déplace une partie de son personnel et de ses ressources de la base aérienne 101 située à Niamey vers la base aérienne 201 à Agadez. Les États-Unis ont environ 1100 soldats stationnés au Niger engagés dans des opérations contre des groupes djihadistes dans la région. Hier jeudi, deux attaques majeures ont eu lieu dans le nord du Mali, faisant au total 64 morts, dont 49 civils et 15 militaires. La première attaque a ciblé un bateau de transport fluvial nommé le bateau Tombouctou naviguant sur le fleuve Niger. La seconde a visé une base militaire à Bamba située dans la région de Gao. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une alliance djihadiste liée à Al-Qaïda. En réponse, l'armée malienne a réussi à neutraliser environ 50 terroristes. Suite à ces tragédies, le gouvernement malien a décrété un deuil national de 3 jours. Les coupures d'électricité récurrentes à Gaïa depuis le 26 juin ont un impact sur le travail des artisans. Certains d'entre eux dépendent souvent de l'électricité pour alimenter leurs outils et machines essentielles à leur travail. Les interruptions fréquentes de l'électricité entravent leur productivité, prolongent les délais de livraison et entraînent des pertes financières. Abdelkader Maybirji, membre du bureau des artisans de Gaïa, explique les préoccupations au micro de Fadel Alou.
Quand vous prenez par exemple la catégorie des professionnels du métier, on peut peut-être dire que c'est seulement les maçons qui n'utilisent pas l'électricité. L'électricité qui a été coupée impacte beaucoup sur nos activités. Même les patrons qui nous apportent les travaux à faire ont arrêté complètement leur activité. Nous sommes vraiment dans des difficultés depuis que cette coupure d'électricité est intervenue. Au moins nous recevons des travaux à réaliser et là les clients sont appelés à se patienter jusqu'à ce que l'électricité soit rétablie. Les femmes que vous voyez, cela fait 2 jours qu'elles ont amené leur couture et rien n'est fait. Je ne peux que leur demander de patienter, car si ce n'est pas avec l'électricité fournie par la Nigelec, nos machines ne peuvent pas tourner comme il se doit. Il y a d'autres entreprises qui sont dans la même situation. Les générateurs que nous avons n'ont pas la capacité de satisfaire les besoins en électricité. Donc vraiment, le manque d'électricité impacte beaucoup sur nos activités.
Promouvoir l'alphabétisation pour un monde de transition, bâtir les fondements des sociétés durables et pacifiques, c'est le thème de la 57e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. Aminu Yakuba, directeur général de l'alphabétisation, estime que les financements pour ce sous-secteur de l'éducation sont insuffisants au regard du travail à faire. Il est au micro de Rahina Egras.
Nous avons un peu partout les structures d'alphabétisation et d'éducation. Nous avons 58 inspections d'alphabétisation au Niger. Nous avons des 8 régions, directions régionales de l'éducation qui prennent en charge. Nous avons des cadres qui sont là. Ce qui nous manque assez par rapport, peut-être aussi comparaison, c'est en termes de financement. Certes, l'État fait des efforts. L'État ouvre des centres d'alphabétisation, des centres d'éducation et les partenaires qui nous accompagnent. Mais beaucoup reste à faire parce qu'aujourd'hui, on devrait prendre en charge normalement 500 000 adultes dans les centres de la population. Vous voyez donc avec l'envol que nous sommes en train de constater, la révolution, en tout cas en termes de financement, en termes de prise en charge de nos questions, d'éducation et des questions, nous allons en tout cas atteindre le pari, nous allons atteindre les indicateurs qui sont actés dans nos documents programmatiques du ministère de l'Éducation nationale, de la Fédération de l'Action professionnelle de la langue nationale.
L'association des étudiants de la commune de Gamoukazoé, à l'issue hier d'une réunion, a appelé les parents et les autorités à mettre à la disposition des élèves des enseignants en nombre et en qualité. Ce cri de cœur intervient à 2 semaines de la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national. On écoute quelques-uns au micro de Ibrahim Manzo.
Nous avons une insuffisance de professeurs de français, de PC, de la SVT et même pour les EPS. Nous demandons à ce que cette insuffisance de professeurs soit réglée, puisque même les nombreux échecs qui sont observés sont relatifs avec ce manque de professeurs.
En vérité, nous n'avons pas assez d'enseignants et les parents doivent nous soutenir avec des cours privés, comme dans certaines localités. Les autorités et les enseignants ainsi que les parents d'élèves se réunissent et chacun dit ce qu'il peut prendre en charge concernant le salaire des professeurs par mois, si c'est un prof de philo, français ou de mathématiques, durant quelques mois bien déterminés. C'est en notre faveur. Si nos aînés se réunissent pour faire ça durant au moins 4 mois, cela va nous aider à réduire le taux d'échec.
À Maradi, en cette journée mondiale du migrant et du réfugié, le département de Guidanroumji continue d'enregistrer l'afflux des réfugiés venant du Nigeria voisin. Selon la direction départementale de l'état civil des migrations et des réfugiés de Guidanroumji, à la date du 31 août, plus de 45 000 réfugiés anciens comme nouveaux sont enregistrés. Pour Mahamman Rabiou Moussa Magaji, il faut avoir le statut de réfugié pour être assisté par les partenaires. Il est au micro de Mohamed Maman.
Ces 45 000 sont des réfugiés qui sont au niveau de ces 3 villages d'opportunité et ceux qui sont au niveau de certains villages d'Aké. Il y a beaucoup qui n'ont pas été arrêtés, donc nous sommes dans le processus, mais à l'heure actuelle, nous sommes à plus de 45 000. Au niveau du Nigeria, le groupe armé non étatique, ils profitent de la saison de pluie pour attaquer les gens puisqu'ils veulent assurer que la population leur cède les terres pour qu'eux, ils cultivent. Et tout réfugié qui vient au Niger, d'abord, il faut qu'il soit identifié par le chef du village. Maintenant, c'est le maire qui peut attester effectivement de la présence de réfugiés dans sa zone. Tout réfugié qui n'a pas été arrêté ne peut pas avoir de l'aide ou bien une assistance. Donc, il faut que les réfugiés soient arrêtés, soit dans la base de données pour que les autres partenaires viennent en appui.
6 personnes décédées, 2 autres blessées et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan de la pluie suivie d'un vent violent enregistré vendredi 1er septembre dans la commune urbaine d'Agadez. Abdrahman Tourawa, maire de la commune, donne d'autres précisions au micro de Moussa Maman.
La pluie du 1er septembre 2023 a été accompagnée d'un phénomène exceptionnel, un vent très violent qui malheureusement a engendré beaucoup de dégâts en vie humaine et en matériel. Nous déplorons malheureusement le décès de 6 personnes, tous des jeunes allant de 5 à 15 ans, des jeunes qui sont aussi blessés, d'énormes dégâts matériels. Nous pouvons citer 158 maisons qui sont effondrées. Nous avons au niveau des centres sanitaires aussi enregistré des dégâts où la case de santé de Taxakantalam complètement effondrée, les toits emportés. Il y a 4 chaînes de froid au niveau des CSI qui sont endommagés, 8 panneaux solaires des centres sanitaires qui sont complètement endommagés, il y a 10 panneaux solaires de la voirie urbaine qui sont tombés, il y a 33 classes endommagées.
La ville de Zender, quant à elle, est envahie ces derniers temps par des déchets ménagers déversés par la population, souvent dans la rue. Les conséquences se font ressentir en cette période de saison des pluies. Les caniveaux d'évacuation des eaux ne fonctionnent plus. Le reportage de Zara Boukar.
La ville de Zender est confrontée à l'épineux problème de gestion des déchets ménagers. Des tas d'immondices jonchent les rues, rendant l'environnement insalubre. Les habitants se plaignent.
En dehors des moustiques, cette poussière même est très désagréable dans les maisons et surtout dans la nourriture. Ça peut même provoquer des maladies.
Que nos autorités essaient de voir cette situation et procéder au ramassage de ces ordures. Cela fait longtemps et rien n'est fait.
Les populations se plaignent surtout de l'inertie des les autorités municipales à qui revient la charge d'évacuer ces ordures. Le responsable du service hygiène et assainissement de la mairie de Zender, Ali Hamidan, déclare que le problème de logistique a exacerbé la situation.
Si toutefois la logistique y est, je pense que certains problèmes, la mairie peut le faire. La population aussi doit éviter un certain nombre de comportements.
La population assiste impuissante à un environnement pollué qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Dr Kalujibo suggère que la population contribue elle aussi à améliorer la gestion de ces déchets.
Si on ne s'attaque pas en fait à ces souillures, à ces saletés, on va se retrouver dans un environnement pollué, avec comme conséquence bien sûr le développement de certaines maladies comme le paludisme, le choléra et la fièvre typhoïde.
De l'avis des experts, ces déchets représentent une opportunité de revenus si on les valorise.
Dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023, le MENA du Niger a été battu hier à Marrakech au Maroc par les Crans d'Ouganda sur le score de 2-0. L'Algérie prend la tête du classement du groupe F avec 16 points, suivi de la Tanzanie 8 points, Ouganda 7 points et le Niger déjà éliminé prend la dernière place avec 2 points. Rappelons que les deux premiers du groupe sont déjà qualifiés. Istifar est un objet d'art fabriqué à la main avec la peau d'une chèvre. Il est fabriqué par les femmes de la région d'Agadez pendant des décennies. C'est une vieille tradition qui reflète la culture et qui est très rentable pour les femmes de l'Aïr. Madame Rabi exerce cette activité depuis son bas âge. Elle explique le processus de fabrication au micro de Saoudatou Malambaba de la partie magazine.
Ces accessoires de décoration qu'on appelle istifar sont faits à base de cuir. Nous utilisons du cuir tanné et du cuir teinté. Le cuir tanné sert de base au istifar, alors que le cuir teinté est utilisé plus loin dans la fabrication. Il est aussi très utile car il sert à orner le istifar. Il y a deux sortes de peaux, les peaux de couleur rouge et celles de couleur blanche. Et 11 couleurs sont utilisées pour les orner.
Donc, vous procédez juste au tannage de la peau?
Il y a des peaux qui sont teintées avec de la peinture rouge et il y en a qui sont blanches d'origine, mais qui peuvent être teintées aussi, en noir le plus souvent.
Avec quoi on fait la teinture?
La peinture que nous utilisons est appelée kulunku. C'est elle qui sert à teinter le cuir blanc, mais elle peut servir à orner le cuir rouge aussi, mais pas autant que le blanc, car lui, il est complètement teinté pour qu'il devienne totalement noir.
Il faut combien de temps pour confectionner istifar?
Oui, ça prend du temps parfois. Ça peut aller jusqu'à un mois pour certains et même plus, tout comme certains peuvent terminer en une semaine.
Où est-ce que vous vendez votre marchandise?
La plupart de ceux qui l'achètent viennent des campagnes parce que ce sont eux qui les utilisent pendant les fêtes ou lors des cérémonies de mariage. Ils sont accrochés dans les chambres et servent de décoration. Et c'est très joli en plus. Ou bien ils sont utilisés pour orner les ânes et les dromadaires lors des courses et pendant les fêtes chez les Touaregs.
Depuis quand vous avez commencé cette activité?
Ça fait vraiment longtemps. Je peux dire que j'ai fait cette activité toute ma vie. Étant toute petite déjà, mes parents le faisaient et j'ai beaucoup gagné dans cette activité. Dieu merci. Mes enfants se sont mariés et j'ai fait plein de profits.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous aurez Habiba Ahmed pour la présentation du journal en tamashek. Les éditions continueront en langue nationale jusqu'à 18h15 où Michel Deji vous présentera le forum de la presse. Vous pouvez réécouter les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalungu disponible sur Play Store.
Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalungu disponible sur Play Store.